Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Je ne suis pas du tout un cheminement spirituel. On va dire que je ne suis pas converti. Mais je suis venu ici. Alors moi, je dis que c'est un hasard. Bien sûr, les sœurs me disent que c'est la Providence qui m'a fait venir ici. Et après, si vous voulez, j'ai connu ce lieu. Et en tant que retraité, bon, j'avais envie de faire quelque chose. Et il faut quand même choisir l'endroit et ce qu'on va faire. Et en venant ici régulièrement, je me suis aperçu que c'était ici que je serais le mieux. Monsieur Trollier vous a parlé de l'équipe et tout ça, hein, donc moi je trouve que c'est vraiment l'endroit idéal pour rendre service et puis pour avoir du retour aussi, moi, hein, parce que je rends service, mais j'ai beaucoup de retours. Il y a tout un lien social qui s'est fait avec les clients, que je trouve...
Des liens d'amitié.
Peut-être pas d'amitié, mais des clients, voilà. Mmh.
Et voilà. Donc, des valeurs partagées
oui, des valeurs partagées avec des gens qui sont... avec des idées différentes, mais bon, ça ne pose aucun problème, même avec les sœurs.
À l'abri des regards, à 15 minutes de Biarritz, au cœur de la forêt de Chiberta, ce lieu dont nous parle Gérard est l'un des fleurons de l'agriculture locale. Son nom, les Jardins du Refuge, un domaine agricole de 25 hectares où depuis 2008, épaulé par des travailleurs salariés et par une équipe de Les Atrécures, la congrégation des Servantes de Marie poursuit l'œuvre de son fondateur, le père Louis-Édouard Sestac. Nous en avons longuement parlé la semaine dernière. Aujourd'hui, dans un souci de qualité des productions, dans le respect de l'environnement et fidèle à l'esprit du père Sestac, salariés, jeunes adultes de l'ESAT et bénévoles assurent conjointement culture céréalière et maraîchère, plantes aromatiques, élevage de poulets et de poules pondeuses. Les Jardins du Refuge, l'histoire d'une rencontre, d'une nécessité. Bernard Trollier, responsable de la structure.
C'est une rencontre en fait. Moi, il se trouve que j'étais fournisseur de l'exploitation agricole de longue date et je les suivais, mais sans. Je les connaissais puisque ma famille avait deux tantes un peu éloignées qui étaient ici Bernardines, qui étaient au couvent des Bernardines. Et donc, après, je les ai suivis dans le cadre de mon travail au niveau agricole, en essayant de les conseiller, et voilà. Et puis, un jour, une sœur m'a confié, elle était infirmière et elle s'occupait de l'étable, et elle me dit, bon voilà, on se pose des questions quant à l'avenir de l'exploitation agricole. Donc en fait, je lui demandais de rencontrer la supérieure, et ça c'était fin 2002, c'était une rencontre avec la supérieure, Sœur Maria Ressus à l'époque. Et quels étaient les besoins ? En fait, elle cherchait quelqu'un pour reprendre l'exploitation agricole, elle cherchait un directeur.
Voilà. Une exploitation assez vaste, 25 hectares,
j'ai Oui, c'est à la fois vaste et c'est pas très grand. Ça dépend par quel bout on la prend. C'est petit pour une exploitation agricole. Bon, la caractéristique, c'est que c'est en pleine ville, donc c'est compliqué à gérer. Elles avaient des vaches. Elle produisait du lait, trop de lait, parce que je suppose qu'à l'époque, les sœurs allaient facilement, le soir, buvaient un bol de lait, et donc elles avaient de la consommation de lait. Sauf que ses besoins ont évolué, elles n'avaient plus cette consommation, donc elles surproduisaient du lait. Et comme elles n'avaient pas de quota laitier et qu'elles ne faisaient pas de transformation de fromage, par exemple, il a fallu qu'elles avaient trop de lait, elles engraissaient des bêtes, des veaux qu'elles vendaient à la cuisine centrale. Enfin, c'était un système assez complexe. Et le fait d'avoir des bêtes à cornes, un petit peu, ça obligeait une maintenance un petit peu difficile parce qu'il y a les vélages qui peuvent arriver la nuit. Donc il faut pouvoir faire intervenir le vétérinaire. Donc elles avaient monté tout un système de permanence qui leur coûtait, si vous voulez, assez cher. Et donc, bon, n'ayant pas grande idée, bon, je connaissais l'exploitation, mais sur des aspects pratiques, mais pas à l'intégralité, et je lui ai proposé d'y réfléchir, mais pas tout seul, et avec un groupe, de monter un petit groupe de réflexion. Et ça lui a parlé assez bien parce qu'elle avait déjà monté un groupe de réflexion pour l'avenir des établissements sociaux qu'elle gérait. Voilà. Et donc, j'ai été à la recherche d'agriculteurs Et comme j'étais fournisseur, il fallait que ça soit des qu'il n'y ait pas de, si vous voulez, soit pas jugé parti. C'est un petit peu compliqué. Même si c'était un cadre bénévole et tout, mais bon, c'était un petit peu délicat. Donc j'ai été à la recherche, dans le monde agricole, que je connaissais quand même pas mal, de personnes qui, dans les domaines, pouvaient nous aider et avec qui je n'avais aucune relation commerciale. J'ai trouvé 4 personnes dans des domaines, des compétences différentes, pour faire le point. L'idée était de faire le point sur les pratiques qu'elles avaient petit à petit, l'évolution de leurs pratiques à elles, en comparaison avec les pratiques qui se faisaient dans le monde agricole.
Et les exigences,
et voilà. Alors, elles étaient, on va dire, très au point, peut-être trop par certains côtés, trop perfectionnistes peut-être par certains côtés. Et on a monté un petit groupe avec Sœur André, Sœur Jacqueline, Sœur Anne-Marie. Donc on a appris à se connaître et à regarder toutes les options, étudier d'abord économiquement. Et la Sœur Jacqueline a été très précieuse parce qu'elle est rentrée dans une démarche d'analyse analytique un petit peu de chaque secteur, de ce que ça rapportait, ce qui est, voilà, bien séparé, les intrants, ce que j'achète, ce que je vends. Et ensuite, on a une réflexion aussi plus large pour essayer de voir vers quel modèle on pouvait s'orienter. Donc il y avait les jardins de cocagne, il y avait les AMAP, il y avait plein de choses comme ça.
Et très vite se pose la question du sens. Une exploitation agricole, pour qui, pourquoi, comment ?
Parce qu'en fait, le but, il est là. Les sœurs faire de l'agriculture pour faire de l'agriculture, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt est ce que l'agriculture soit aussi l'exploitation, le support d'une œuvre sociale. Voilà. Et ça, ce qui avait du sens, c'était de maintenir les deux activités de base du fondateur, celles qui lui ont permis de développer les œuvres, à savoir le lavoir, puisque c'est là qu'il a gagné ses premiers sous, en lavant le linge des garnisons de Napoléon, et ensuite l'exploitation agricole qui a permis de nourrir la communauté. Voilà. Et il faut quand même savoir que jusqu'en 1996, elle vivait en autoconsommation. Et là, elle travaillait, les sœurs travaillaient avec les personnes accueillies. Donc elles étaient nombreuses. Et là, on commençait à s'en éloigner, puisque les établissements, si vous voulez, toutes leurs œuvres étaient reprises un peu, quelque part, en contrat avec l'État. Voilà, donc on a cherché un modèle. Plusieurs pistes ont été abandonnées. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire des rencontres. Dans mon métier précédent, je travaillais déjà avec des centres d'aide par le travail que j'avais comme client et avec qui on avait eu pas mal de réflexions sur l'économie d'une exploitation agricole dans un centre d'aide par le travail, trouver des débouchés, ainsi de suite. Et donc, en allant les voir, en allant les rencontrer, on a pu voir que peut-être on pouvait faire quelque chose ici. Et je me suis rapproché de deux centres d'aide par le travail qui étaient dans l'agglomération, dans l'entourage. Il ne fallait pas qu'ils soient trop loin parce qu'avec les déplacements, c'était compliqué. L'un m'a dit « Bon, mais mon maraîcher s'en va à la retraite, donc je suis mal placé pour vous répondre. » Et l'autre directeur, spontanément, m'a dit « Écoutez, moi ça m'intéresse, je peux vous mettre une équipe à disposition pendant 3 mois et on fera le bilan après. » Donc les premiers jeunes sont arrivés en novembre 2007. Donc ça va faire l'année prochaine, ça fera 15 ans qu'ils seront là. Donc voilà. Et donc du coup, on a établi un partenariat. Mais il a fallu pour cela créer notre propre structure. Ils sont arrivés, mais il a fallu créer notre propre encadrement, parce que eux, si vous voulez, ils sont partenaires, on leur paie des prestations de maraîchage et d'espace vert, mais il a fallu qu'on monte notre propre structure. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il a fallu s'adapter un petit peu, apprendre à travailler ensemble, parce que eux, ce n'étaient pas des CAT agricoles, donc ils n'avaient pas cette culture. C'est-à-dire que, bon, concrètement, on s'arrête le vendredi midi, on revient le lundi matin, il n'y a pas de permanence, mais nous avons des élevages, donc on a des permanences d'arrosage, des permanences il faut s'occuper des animaux, ça ne s'arrête jamais, quoi. Ça ne s'arrête jamais, voilà.
Si le projet cristallise de très nombreux enthousiasmes, la réalité des défis n'échappe pas aux tenants de l'aventure. Premier point d'importance, la viabilité de l'entreprise.
Alors ça, c'est un thème important. Là, vous parlez de viabilité. Les sœurs sont très attachées. Et c'est un enseignement du fondateur aussi. Et je pense que ça, c'est une notion très importante, parce qu'on peut avoir de très bonnes idées. autant il comptait énormément sur la providence. Et il avait imposé aux sœurs, elles ont dû vous l'expliquer, de ne pas faire la charité. Donc ça lui en a coûté beaucoup. Mais je dirais que on fait très attention à ça. Et en fait, je pense que c'est garant aussi de notre indépendance et de d'arriver à des à faire une entité viable, sans aide extérieure, sans aide, sans subvention, voilà. Et ça, c'est quelque chose, c'est une notion, je pense, importante qu'on peut retenir du fondateur. Il leur a dit, vous développez des œuvres, mais vous, vous débrouillez avec vos propres moyens. Donc, c'est pas un peu quoi qu'il en coûte, mais comment dirais-je, un petit peu, il faut se débrouiller par soi-même. Il faut assumer son développement.
Ne pas attendre
de la providence, mais je veux dire pas de l'État. Et je trouve qu'en ce moment on attend tout et au moindre truc on dit mais c'est l'État doit y pourvoir et s'occuper de ça et prendre en charge ça. Voilà. Les sœurs ont été habituées à se débrouiller, c'est pour ça, alors ça redonne ce côté un petit peu autonome, peut-être un petit peu mystérieux ou comme ça, mais elles prennent le temps et c'est énormément de travail derrière. Il y a beaucoup de travail et beaucoup de temps passé. Voilà. Et donc, elles ont su développer un peu ces activités comme ça. Et donc, nous, à notre image, il faut qu'on réussisse à être autonome économiquement. Mmh. Et donc, on a pu monter tout ça, mais ça, il faut, grâce à des salariés, mais aussi au départ, beaucoup à partir de bénévoles qui nous ont aidés. Donc ça a été,
ça a fédéré, c'est quelque chose, c'est un projet qui a fédéré.
C'est un projet qui a fédéré, ça a été des rencontres, des personnes qui m'ont dit qu'ils arrivaient en retraite et ils se demandaient ce qu'ils allaient faire. Alors je dis, malheureux, de quoi tu me parles? Et qu'est-ce que tu me dis là? Et donc ces personnes nous ont aider à bâtir l'exploitation de maintenant. Mmh. Et maintenant, avec des salariés, on a pu prendre le relais. Et puis, évidemment, les sœurs qui ont travaillé, qui étaient partout. La première personne qui a développé le point de vente, c'est sœur Françoise, et elle est partie de zéro. Et donc elle avait un fort caractère, et qu'elle a toujours d'ailleurs, mais elle a pu démarrer, elle avait un sens commercial assez développé, et elle a su organiser un peu le point de vente. Et puis bon, maintenant elle a dû se retirer pour des problèmes de santé, et on a remplacé au fur et à mesure chaque sœur par un ou plusieurs salariés, parce que c'est un peu la complexité, c'est que les sœurs n'avaient pas trop d'heures dans le travail, tandis que nous travaillons en 35 heures, donc ça complique un petit peu. On va aller dans les serres. Bien, alors là, vous avez une première serre avec un produit phare. D'ici, c'est le piment doux. Le piment doux a été peut-être démarré ici, en tous les cas, les sœurs qui gardent toutes les factures. Sœur Jacqueline a pu me retrouver une facture de 1870 qui atteste que le fondateur avait déjà des liens, puisqu'il est mort en 68, mais avait des liens d'achat où il achetait des graines de piment doux. Le piment doux est connu dans la région, le piment doux des Landes, et voilà, et ça se faisait un petit peu. C'est différent du piment d'Espelette, qui lui est piquant, qui est une épice, si vous voulez, tandis que ça, c'est un légume. Et sa caractéristique, c'est d'être doux, 100% doux. Donc, c'est monté un groupe de maraîchers, et on a obtenu un label rouge après 12 ans de travaux et de réunions. On a réussi à se mettre d'accord sur un cahier des charges, à le faire valider et faire reconnaître par le ministère de l'Agriculture. Donc voilà. Donc ce piment doux, vous l'avez soit dans ce qu'on appelle des pipérades, des produits que l'on transforme. On les fait transformer précisément. C'est transformé dans un ESAT maintenant. Donc, voilà, on a deux serres de piment. On a des petites serres. C'est des serres, vous voyez, elles font à peu près 25 mètres de long. sur 8 à 9 de large. C'est des serres toutes simples. On n'est pas sur des modèles...
Oui, c'est comme on me disait, c'est agriculture raisonnée.
Voilà, et ça nous permet de faire...
C'est pas du bio, vraiment, mais c'est...
Alors, on les a pas. On est en train de les passer en bio. Elles sont passées cette année, c'est passé en bio. On a passé toutes les serres en bio. On travaillait sur le modèle bio depuis des années, et là, on comment dirais-je, c'est-à-dire qu'on n'utilisait pas d'intrants chimiques, d'engrais et de produits, mais là, on est carrément passé. Voilà, parce que si vous voulez, c'est une étape supplémentaire dans le sens où, à partir du moment où vous rentrez, comme pour le piment label, dans un cahier des charges, là vous devez respecter toutes les caractéristiques du cahier des charges. Voilà.
Qui sont assez lourdes, je suppose.
Qui sont assez lourdes. Ah. Qui sont assez lourdes. Voilà. Alors, attention. Hein, voilà. Ouais. Tous les légumes de saison, aubergines, poivrons. Mm-hmm. Et puis, alors, on a beaucoup de production de plein champ. De l'autre côté, on a une parcelle bio. Et là, donc ça, c'était des concombres. Donc,
là, c'est un petit peu la fin.
Là, c'est complètement la fin. Là, ils vont être retirés, vous voyez. Voilà, il faut arriver à faire un roulement pour avoir des légumes. Sûr, oui. Alors, on est obligé de compléter par l'apport, de produits bio qui viennent de l'extérieur, soit de partenaires de maraîchers, avec qui on travaille, parce que autant nous on est sur du sable, autant on a des collègues maraîchers qui sont sur des terres plus fortes. Et par exemple les melons, on les fait chez un autre producteur. Par contre nous on a une terre adaptée à faire de la carotte. Vous voyez,
des
sables, pommes de terre primeurs, voilà, on arrive à... Voilà. Donc ici une autre serre de piment, que des produits un petit peu de saison, quoi, hein, qui poussent. Donc ces premières années nous ont permis, grâce à ce travail des sœurs et l'aide de bénévoles, de monter des structures, racheter du matériel d'occasion, des serres, monter des serres petit à petit, mettre en place une production, en vendre un petit peu plus. Le but n'est pas d'agrandir pour agrandir, le but il est d'avoir une équipe assez structurée.
Une équipe de combien d'ailleurs ?
Alors, on a à peu près 7 personnes, si vous voulez, à temps complet, et après à certaines personnes à mi-temps, et des personnes qui viennent de manière saisonnière aussi à la saison. Hein. Parce que l'été, il y a toujours un surcroît d'activité.
Le travail agricole, c'est la production,
Voilà. Et puis, on a de l'élevage. Donc, les caractéristiques, c'est on a une partie de maraîchage. Ça, c'est la partie la plus connue. Il y avait un petit peu une activité de fleurs. Malheureusement, c'est la partie qu'on n'a pas bien développée, qu'on n'a pas su développer. Il faut dire que le maraîchage, la demande de maraîchage s'est développée considérablement depuis une quinzaine d'années. Hein. Et ça, on a été un peu surpris aussi par cette demande.
C'est dans l'esprit du temps aussi. Hein,
voilà, et chaque scandale alimentaire a amené une réflexion des gens sur ce que c'est de bien manger, faire attention à l'origine des produits, est-ce que les produits sont traités, être beaucoup plus curieux de savoir ce qu'il y avait dans son assiette. Et donc... ça a été un développement. Elles étaient connues pour les plants, les fleurs. Et la sœur qui s'en occupait, sœur du Cénacle, a arrêté aussi, hein, de par l'âge. Et c'est le secteur qu'on essaie de relancer un petit peu. Mais on est entouré de jardineries qui vendent les chrysanthèmes à prix bradé à l'automne. Et ensuite, c'est un petit peu plus compliqué. Et ensuite, on a une partie d'élevage. On a des poules pondeuses. Donc, tous nos œufs sont produits ici sur l'exploitation, et du poulet. Donc c'est un peu près ce qu'on retrouve dans le point de vente. Et ensuite, on a une partie qu'on appelle de grande culture. C'est un bien grand mot pour des cultures qui sont non irriguées sur des terres sableuses, fait où on fait du maïs. Et non, on le fait sans eau. Donc c'est à la grâce de Dieu.
Donc, là, vous invoquez la providence.
Voilà. Oui, la providence, on peut. Et on a fait pour la première fois du tournesol. Le tournesol n'était pas cultivé vraiment dans la région ici, mais bon, est-ce qu'avec les changements climatiques, on va essayer de faire de l'huile de tournesol, puisqu'on en vend au point de vente, donc on va essayer de la produire nous. Et ensuite, on a une partie de forêt. Il se trouve qu'historiquement, le fondateur, quand il est arrivé, mais bon, la sœur a dû vous expliquer ça mieux que moi, c'était des terres nues. Hein, donc, et ça a été l'époque où Napoléon III commençait à planter. et c'est dans la fameuse forêt de Chiberta dont tu as dû parler à cause de l'incendie l'année dernière.
Qui ne vous a pas touché.
Alors, qui ne nous a pas touché dans notre partie à nous, par chance. Donc, on a une partie de forêt à gérer. Assez compliqué d'ailleurs, parce que nous gérons ça à trois propriétaires. Nous avons un petit quart, la commune d'Anglette a un gros quart, et le reste appartient au Conseil des Pyrénées, général des Pyrénées-Atlantiques. Voilà.
Toujours dans l'esprit du père Sestac, soucieux de donner une éducation de qualité à l'enfant et aux jeunes, et dans un souci plus actuel de les sensibiliser aux réalités des métiers de la terre et à l'impact des changements environnementaux sur la production agricole, les Jardins du Refuge ont ouvert depuis quelques mois un pôle pédagogie découverte.
Alors moi c'est Gwendaline Salou, donc je travaille depuis 7 ans à l'exploitation agricole Les Jardins du Refuge, et j'ai eu beaucoup de casquettes au maraîchage, ensuite au responsable du point de vente, et aujourd'hui je suis plutôt sur le pôle élevage. Je coordonne l'élevage de poules pondeuses et le pôle pédagogie, donc on développe des ateliers pédagogiques, on ouvre la ferme au grand public pour expliquer nos métiers agricoles, expliquer les réalités de ce qu'il y a derrière la consommation alimentaire, la biodiversité, l'environnement, voilà, tout ce qui touche autour de l'agricole.
Votre arrivée ici, c'était un choix, ça s'est fait comment? Ça a été une rencontre, une opportunité, ou c'était un choix vraiment délibéré de venir ici?
Alors moi je suis éducatrice spécialisée, donc je travaillais dans le social et je voulais créer un projet de jardin d'insertion par le maraîchage, mais je voulais me former au maraîchage avant. Donc j'ai cherché un lieu d'apprentissage et c'est comme ça que j'ai rencontré donc Sœur Françoise qui était au magasin et qui m'a demandé de contacter Monsieur Trollier, le responsable du site. Et donc on s'est rencontrés et comme j'avais un profil social et qu'ici il travaille avec un ESAT, des personnes en situation de handicap, ça les intéressait beaucoup d'avoir quelqu'un avec un profil social. Donc du coup je suis entrée au maraîchage comme ça dans un premier temps. En tant que salariée, et donc j'ai travaillé au maraîchage en apportant ce que je pouvais de compétences aussi sociales sur le site.
C'était vraiment la croisée.
Ouais, voilà, et c'était vraiment un projet qui m'intéressait, et comme du coup mon projet d'insertion que je voulais monter était complexe à cause de l'accès aux terres au Pays Basque, et bah du coup j'ai décidé donc de rester là et de participer à tout ce qui se faisait sur le site, voilà, en termes de projet social et agricole.
Et peu à peu, au fil des rencontres, des serres au magasin, nous percevons un peu de ce presque indicible, l'esprit des Jardins du Refuge. Gwendaline.
C'est pas quelque chose de palpable, mais en fait, moi, ce qui m'a énormément plu aussi, qui a fait que j'ai souhaité perdurer sur ce site sur du long terme, c'est que que ce soit la congrégation donc, qui nous embauche, où les personnes qui viennent nous voir, beaucoup la clientèle, les collègues, les bénévoles, on est sur un partage de valeurs humaines, on se retrouve tous là-dedans. Donc il y a croyants, non-croyants, autres confessions, peu importe, en fait, on ne parle pas de ça. On s'accepte voilà, les uns les autres avec nos différences et nos défauts, nos qualités. Et par contre, dans un respect quoi, de l'autre, où on essaie, voilà, on est tous humains, on a tous nos moments compliqués, mais on essaie de s'accepter et de communiquer, en fait.
Pour voilà. Faire une œuvre commune.
Voilà, le but, c'est de se retrouver sur un projet commun et des valeurs communes, sociales, de solidarité, d'entraide, de partage, et aussi environnementales, parce que du coup, on en est en première ligne. Hein, tous les jours, on est en contact avec la nature, donc les changements climatiques, on les voit vraiment au quotidien. Et voilà, on essaie de tous faire ensemble ce qu'on peut pour rendre le monde un petit peu meilleur chaque jour au possible.
À quelques pas des terres maraîchères et du magasin, le cimetière de sable, le couvent et la chapelle des Bernardines invitent à la pause le client pressé, le promeneur dilettante. L'émotion qui nous saisit a peu à voir avec la réelle beauté du lieu. Ses racines sont plutôt à chercher dans la permanence de ce lieu que Gérard, le non-converti comme il se nomme, a su si bien comprendre.
Donc voilà, moi je suis bien ici. Il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a aussi l'entretien du cimetière, je ne sais pas si vous y avez été. Ça, c'est important pour nous, laïcs, d'entretenir ce lieu. Là, ce sont vraiment des bénévoles. On se connaît entre nous et ça fait des années qu'on a commencé à pallier au départ des sœurs, qui sont très âgées et qui ne peuvent pas, si vous voulez, faire ce travail, qui est quand même plus ou moins physique. Voilà, donc toute une équipe se monte depuis des années, maintenant c'est mis en place. Et donc on sait très bien ce qu'on a à faire. Et on entretient ce cimetière parce qu'il faut absolument que ça reste, beau, et entretenu. Voilà.
Parce que c'est un lieu de paix aussi.
Ah, de toute façon, un lieu de paix, oui, de paix, de silence, de recueillement, même si on n'est pas converti comme moi. Mais c'est vraiment un lieu très très beau lieu pour moi. Ce qui m'a permis, si vous voulez, en plus, d'apprendre, enfin, d'avoir une connaissance maintenant, je veux dire, un peu approfondie sur l'historique de l'œuvre, quoi, ce que vous avez expliqué sur Jacqueline. Mmh. Voilà. Bon, quand je suis rentré, on m'a donné des documents et ça m'a intéressé de suite. L'œuvre m'intéresse, le fondateur aussi. Donc je me suis vite passionné pour
cet homme. Parce que c'est tout est profondément humain.
Oui, tout à fait. Ah, oui, tout à fait.
On est vraiment dans l'humanité.
Oui, tout à fait. Dans l'humanité, dans le social également. Non, c'est quelqu'un de... Le fondateur, le père Sessac, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant.
Et qui fédère donc des personnalités, des personnes très très diverses.
Tout à fait, tout à fait. Il rejetait absolument personne. Donc c'est une passion. Enfin, oui, c'est peut-être une passion maintenant. Voilà. Je me permets comme ça de faire des visites aux gens. Ça s'est institué ici, dans le magasin. Toutes les semaines, il y a un village vacant à Zureva qui a proposé de faire venir des gens ici, sur place, pour voir. Et donc on m'a proposé de les accompagner. Et de leur expliquer l'histoire. Parce que passer ici, c'est bien de passer ici, mais je trouve que c'est dommage de ne pas connaître le début, comment ça s'est fait, par qui, les difficultés qu'il a eues. C'est important de le transmettre.
De
partir de l'origine et de transmettre aux gens ce qui se fait aujourd'hui et ce qui s'est fait avant.
Un lieu dont nous découvrirons l'histoire la semaine prochaine. Nous retrouverons Sœur Jacqueline et avec elle, nous mettrons nos pas dans ceux des Bernardines, les Sœurs du Silence Saint.